Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour ce nouveau rendez-vous avec notre évêque, Monseigneur Laurent Camiade, avec Jean-Claude Bonnemère et votre serviteur Pascal Bahut pour ce temps de rencontre. Nous allons évoquer ensemble différents sujets d'actualité et puis des sujets concernant notre diocèse. Jean-Claude, sans plus attendre, je vous invite à aborder le premier sujet avec Monseigneur Camiade.
Monseigneur Camiade, la Cour de cassation a rejeté mardi 15 octobre dernier le rétablissement de l'honneur de Jacques Fesch. Je rappelle, un détenu guillotiné en 1957 pour le meurtre d'un policier 3 ans plus tôt. Son fils Gérard, à l'origine de cette procédure, regrette que la Cour de cassation rate ainsi l'opportunité de rendre une grande décision humaniste sur le droit de tout délinquant, quel que soit son crime, de pouvoir s'amender. Il faut rappeler que Jacques Fesch a mené en prison un parcours de conversion qui a donné lieu à de nombreux témoignages et même des livres, dont l'un des plus connus s'intitule « Lumière sur l'échafaud », à travers lequel est retracé tout le parcours de conversion de Jacques Fesch. C'est donc sur le fondement de cette démarche spirituelle de conversion que se fonde la procédure engagée par son fils. Par ailleurs, a été ouvert un procès en béatification en 1987, dont sont attendues les conclusions. Monseigneur Camiade, avez-vous des nouvelles sur l'avancée de cette cause en vue de la béatification? Mais peut-être tout d'abord, pouvez-vous nous donner votre impression par rapport à ce refus de la Cour de cassation de reconnaître le pouvoir de s'amender? Est-ce que c'est simplement quelque chose qui relève, selon vous, du domaine spirituel?
Alors oui, c'est toujours difficile de commenter une décision de justice, d'autant plus que je n'ai pas la connaissance détaillée de tout le dossier, de la manière dont ça a été instruit, etc. Après, je pense que symboliquement, évidemment, ça aurait pu être sympathique de se dire qu'un condamné à mort, on le réhabilite, on reconnaît que voilà, il a peut-être été sous-estimé, en fait, justement, toute sa démarche personnelle, sa démarche spirituelle. Enfin, je crois que c'est ce que son fils voulait mettre en valeur, le fait qu'en prison, il avait, je crois qu'il avait reconnu ses torts, il avait demandé pardon, etc. Bon, mais il avait surtout découvert l'amour du Christ qu'il ne connaissait pas, enfin, où il avait connu un peu dans son enfance, mais il avait un peu pris il a pris pas mal de distance. Et donc là, en prison, je crois que c'est surtout grâce à son avocat qui, au début, l'a aidé à réfléchir sur la foi, et ensuite, il a fait une démarche pour se confesser, il a eu tout un accompagnement, et ça a été, je crois, on connaît cette phrase de lui le jour de son exécution, il a dit dans 5 heures je verrai Jésus. Enfin, c'était sa disposition qui était signe d'une belle espérance et d'une sérénité assez étonnante dans ces circonstances-là. Enfin, voilà. Donc, finalement, on pourrait se dire ce serait si la justice avait pu reconnaître quelque chose de ce parcours spirituel, ça serait un encouragement, peut-être aussi d'ailleurs en vue du procès en béatification, parce que je pense que d'après ce que j'ai entendu dire, le procès, les enquêtes, tout ce qu'on a pu établir serait plutôt favorable, mais se pose quand même toujours aussi la question de l'opportunité. Symboliquement, c'est quand même quelqu'un qui a tué un policier, je crois que dans le contexte actuel, c'est un sujet on ne peut plus sensible, clivant. Alors c'était pas dans les mêmes circonstances que des choses qu'on a pu connaître ici récemment, mais enfin on voit bien que c'est pas un sujet simple dans la perception, dans la compréhension qui pourrait en être donné au grand public et vis-à-vis de la police, quoi. Donc il faudrait, à mon avis, pour qu'il y ait cette béatification, qu'il soit vraiment clair que c'est pas, il ne s'agit pas de reconnaître que c'est un saint parce qu'il a tué un policier. Je pense que ça serait une interprétation complètement erronée. Oui. C'est bien parce qu'il s'est amendé et parce qu'il a fait un chemin spirituel après. Hein, et qu'effectivement, le saint n'est pas forcément saint toute sa vie, comme saint François d'Assise, qui a eu une vie de patachon avant de se convertir et de devenir un grand saint. Et il y en a quelques autres. Donc, c'est, voilà. Mais effectivement, si on ne retient de Jacques Fesch que le fait qu'il a tué un policier, évidemment, ce n'est pas une raison pour être béatifié. Ce serait plutôt le contraire.
Effectivement, voilà. C'est surtout de voir comment... Le fait que quelqu'un se soit amendé, je pense que sa conversion est entre guillemets irréfutable. Il y a de nombreux témoignages, ses écrits en font foi, si j'ose dire.
C'est tout à fait, c'est très, très... Très très beau, en fait, on sent qu'il y a eu un vrai chemin intérieur. Après, bon, voilà, ça n'enlève rien que de notre côté, il avait conscience lui-même d'être sanctionné pour ses fautes et il ne s'est pas révolté non plus contre cela. Alors, il reconnaît que la justice a fait son travail à son égard.
Effectivement, le procès a été ouvert en 1987. L'Église prend son temps pour.
De béatification,
oui. Oui. Donc l'Église prend son temps pour vérifier tous les éléments. Est-ce qu'on peut envisager une réponse entre guillemets sur cette question?
Je suis incapable de vous dire. J'ai pas d'éléments. Mais c'est vrai que donc j'ai mentionné cet enjeu de savoir voilà l'impact symbolique que pourrait avoir une telle béatification concernant l'acte commis, mais il y a aussi l'impact symbolique de ce que ça veut dire se reprendre, s'amender, se convertir, changer de vie, avoir une nouvelle chance, etc. Et évidemment derrière ça il y a aussi tout le débat sur la peine de mort. Sur lequel aujourd'hui l'Église, dans son catéchisme, manifeste que moralement, elle n'est jamais licite, elle n'est jamais juste. Mais il y a aussi un certain nombre de gens aujourd'hui qui voudraient qu'on revienne à la peine de mort par rapport à certains actes. Et ça, c'est aussi un sujet très délicat.
On voulait évoquer avec vous le jubilé 2025 qui va être proclamé par le pape François, avec comme thème principal « Pèlerin d'espérance ». Jean-Claude.
Oui, on imagine que cette thématique va se décliner dans le diocèse de Cahors et quelles en sont un peu les grandes lignes?
Alors la thématique pèlerin d'espérance, c'est bien, il y a les deux mots, il y a le pèlerinage, le pape nous demande d'aller en pèlerinage à Rome. Donc il y aura un pèlerinage à Rome organisé en novembre 2025 pour le diocèse, il y aura un pèlerinage à Rome pour le pèlerinage des jeunes pendant l'été, donc fin juillet, début août 2025. Donc il y aura au moins ces deux événements proposés au plan diocésain, mais en fait il y a des jubilés thématiques tout au long de l'année, donc on peut aussi aller à Rome par ses propres moyens ou en rejoignant d'autres groupes. Et voilà, nous ferons aussi nous un pèlerinage à Paray-le-Monial, en février 2025. Mais sinon, sur la thématique elle-même, le pape nous invite à entrer comme pèlerin dans l'espérance, c'est-à-dire dans un renouveau, un regain de l'enthousiasme de la foi qui nous conduit vers la vie éternelle, qui nous permet de vivre dès aujourd'hui de la joie du Christ, d'être aimé de lui, enfin, et d'ouvrir aussi nos yeux sur les réalités du monde, pas seulement en critiquant ce qui va mal, même si beaucoup de choses vont mal, mais aussi en percevant les signes d'espérance. Donc j'ai proposé que dans toutes les églises qui sont ouvertes et où les gens peuvent entrer, les gens ont plaisir à entrer et prier, et on voit que souvent les gens aiment bien aussi, enfin certains en tout cas, et beaucoup, aiment bien quand il y a un cahier ou un lieu d'expression, j'ai proposé un cahier d'espérance où les gens pourront écrire les signes d'espérance qu'ils voient autour d'eux, dans leur vie, dans la société, dans l'église, enfin voilà. Donc ça va être une démarche comme ça de, ne serait-ce que se poser la question, est-ce que je vois des signes d'espérance autour de moi? Je pense que ça peut faire grandir la conscience que nous sommes sauvés par le Christ, et donc c'est cette démarche qui sera proposée très largement, donc non seulement à ceux qui viennent le dimanche à la messe, mais à tous ceux qui rentrent dans nos églises et qui le veulent bien, ils auront la possibilité d'exprimer des choses. Je ne sais pas ce qu'on en fera après, mais on va se servir de ça. Et puis donc voilà, il y a le pape ouvre ce jubilé à Rome le 25 décembre de cette année, donc pour la naissance du Christ, puisque c'est les 2025 ans, nous allons fêter de la naissance du Christ. c'est ça le jubilé 2025. Et donc, et il est demandé que dans les diocèses, le 29 décembre, à la cathédrale, on s'associe à cette ouverture. Donc, il y aura une petite procession et un temps une démarche spirituelle. Et on invitera aussi une personne par paroisse à venir à la cathédrale pour recevoir une bannière du jubilé qui sera ensuite dans les églises du diocèse. Voilà, et il y aura aussi une image prière avec la prière du jubilé qui sera diffusée dans les paroisses. Et puis, comme le pape nous invite à vivre comme tout jubilé, il y a une démarche pénitentielle pour accueillir l'indulgence du Seigneur. Et aussi, donc pour accueillir l'indulgence, il y a des conditions, il faut passer par le sacrement de la réconciliation. Et donc, on sait qu'il y a parfois des difficultés pour vivre ce sacrement. Donc, il y aura au début du carême 2025, donc au mois de mars, trois soirées dans trois lieux du diocèse, mais ce sera la même chose dans chaque lieu. C'est pour délocaliser et permettre au maximum de gens d'y participer sur ce thème de comment bien se confesser et accueillir la grâce du jubilé. Voilà, j'en dis pas plus.
Alors, vous avez évoqué plusieurs pèlerinages. Est-ce qu'on peut imaginer que les inscriptions seront bientôt ouvertes ?
Ah oui, alors les inscriptions, ça sera bientôt ouvert. Je crois qu'il n'y a pas encore de... Mais enfin, on peut déjà postuler auprès du service des pèlerinages. Je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, ce sera ouvert.
J'en profite pour citer le pèlerinage organisé par le groupement paroissial de Figeac, à Rome. Nous en avons parlé hier soir et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est possible de s'inscrire à ce pèlerinage.
Déjà, oui, et qui a lieu plus tôt, hein, je crois.
Oui, plus tôt. Oui. Père, vous nous avez amenés jusqu'à Rome et on voulait évoquer avec vous les cardinaux, et notamment les cardinaux français qui ont été nommés il y a quelque temps.
Jean-Claude. Alors, effectivement, une nouvelle fournée de cardinaux vient d'être nommée par le pape François. Et un Français, il s'agit donc de Jean-Paul Vesco, un dominicain lyonnais d'origine, à la tête du diocèse d'Alger depuis décembre. Alors, cette nomination a pu surprendre, notamment dans la mesure où Monseigneur Vesco est à la tête d'un diocèse où on compte bon an mal an 4000 catholiques. On aurait pu imaginer qu'un cardinal aurait pu être sur un territoire un peu plus important, mais peut-être que derrière cette nomination se cache une volonté du pape François, notamment par rapport au dialogue auquel il est très attaché à l'égard de l'Église de l'islam.
Oui, ça paraît assez clair, le message est assez clair. Ce choix peut étonner, parce que surtout si on est dans le schéma un peu ancien où ce sont les archevêques des grandes villes, des grandes métropoles catholiques qui sont cardinaux. Et on voit bien que le pape François n'a pas cette option-là. Les cardinaux qu'il a nommés en France, c'est l'archevêque de Marseille et celui d'Ajaccio. Donc on n'est pas du tout sur le centralisme. On est plutôt sur les périphéries, c'est ce qu'il choisit. Et puis, effectivement, Monseigneur Vesco est dans un diocèse où il y a eu, il y a quelques années, il y a, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 ans, la béatification de 19 martyrs d'Algérie, qui sont tous marqués justement par cette forte dimension du dialogue. Ça a été des chrétiens qui ont voulu vivre en terre d'islam par amour de la population d'Algérie et qui ont été martyrisés parce que des islamistes, et je ne veux pas confondre avec les musulmans et les habitants d'Algérie, des extrémistes, des terroristes, les ont généralement assassinés. C'est le cas de ces martyrs, dont les fameux moines de Tibérine, dont on a bien entendu parler grâce au film Des Hommes et des Dieux. Et puis nous avons dans le Lot la famille de Chergé qui a une maison à Saint-Michel-de-Bagnères, donc nous avons l'habitude de faire mémoire de son testament spirituel, qui est un très beau texte justement sur la fraternité avec la population musulmane d'Algérie.
Inscrit dans le marbre.
Oui, c'est ça, oui. Ça a été gravé. Et en fait, je pense que ça signifie quand même aussi le fait qu'un évêque n'est pas seulement l'évêque des catholiques du territoire où il est, mais il est l'évêque de toute la population. Dans le sens, bien sûr, il n'est pas forcément reconnu comme tel par tout le monde, mais il a le souci de tout le peuple, de chacun, pas seulement des catholiques. Ce n'est pas un grand organisateur d'une communauté communautariste, justement. Mais en tant qu'évêque, il a le souci du bien de toute la population. Et le pasteur n'est pas seulement intéressé aux brebis qui sont dans l'enclos, mais il va toujours à la recherche de la brebis perdue. Et puis surtout, il cherche le bien. Il est là pour aimer tous, quoi. Et ça, du point de vue de l'Église, c'est très important aussi comme message, quoi. Donc il y a 4000 catholiques, mais je ne sais pas quelle est la population du diocèse d'Alger, mais il doit y avoir quand même quelques centaines ou de milliers ou plus.
Peut-être, Monseigneur, puisqu'on évoque les cardinaux, peut-être dire peut-être un peu de pédagogie pour dire à quoi sert un cardinal.
Alors, c'est une bonne question. Vu de notre petite échelle dans un petit diocèse, on pourrait se dire que ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ça sert beaucoup parce que les cardinaux sont un peu le conseil rapproché du pape, enfin, même s'ils sont quelques centaines et qu'ils se retrouvent pas tous les jours autour du pape, mais ils ont ce rôle pour le conseiller et aussi pour le représenter. Voilà, chaque fois qu'un cardinal est présent, on se sent plus relié au Saint-Père, puisque c'est, à la base, au départ, les cardinaux étaient les curés de la ville de Rome, donc ils constituaient le presbytérium du pape, et donc c'était son conseil naturel. Alors pour des besoins pratiques, eh bien, on a étendu cela à des évêques dans le monde entier, mais qui ont tous un lien avec une des églises de Rome, pour bien signifier l'origine, en fait. Donc c'est-à-dire leur lien, en fait, avec l'église de Rome et donc avec celui qui en est le pasteur, qui est le pape. Donc voilà, ils ont ce lien, ce rôle de lien plus étroit. Donc c'est au service de la communion dans l'Église et voilà, de notre proximité.
Et en même temps, Monseigneur, électeur pour le nouveau pape.
Alors bien sûr, ça c'est toujours ce que l'on voit le plus, parce que évidemment il y a un avant et un après quand il y a un nouveau pape, mais c'est sûr, oui, les cardinaux sont de moins de 80 ans, sont ceux qui votent pour l'élection d'un nouveau pape.
Alors on va revenir sur notre diocèse, même si on l'a évoqué avec le jubilé, ce qui va se passer plus précisément sur notre diocèse, mais il y a eu des incidents qui se sont déroulés dans nos églises. Jean-Claude.
Alors effectivement, vous avez célébré, Monseigneur, une messe de réparation à l'église de Bagnac-sur-Célé. Alors pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé et en quoi consiste cette célébration ?
Bon, mais ce qui s'est passé, malheureusement, c'est arrivé dans pas mal d'églises. On ne sait pas qui sont venus, ont réussi à ouvrir la sacristie, à voler des objets de culte, des calices, un ostensoir. Ils ont trouvé la clé du tabernacle, donc ils ont volé le ciboire avec les hosties consacrées, donc le corps du Christ présent dans le tabernacle, donc le Saint-Sacrement. Donc ce qui, après quelqu'un aussi, mais je ne sais pas si c'est les mêmes personnes, avait retourné une statue, la statue de Saint Jean-Marie Vianney. Mais ça a moins d'incidence, mais enfin on s'interroge sur l'intention. Et pour nous, non seulement il y a un vol qui est quelque chose de toujours traumatisant, quand on vient chez vous et qu'on vous prend quelque chose au-delà de l'objet lui-même, quelle que soit sa valeur, on peut le remplacer. Mais c'est quand même un peu une violence qui est faite à la communauté tout entière. Et a fortiori, si dans cette violence... Le sacrement du corps du Seigneur, les hosties consacrées qui représentent pour nous, qui sont la présence réelle du Christ Jésus, profaner ces hosties est quelque chose de très grave. Voilà. Donc la célébration de réparation, c'est quelque chose qui est demandé par l'Église dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer à nouveau dans cette Église comme si de rien n'était, on va dire l'Église est souillée, il y a besoin de réparer spirituellement le mal spirituel qui a été fait. On ne va pas pouvoir réparer le mal matériel, parce que enfin, même si la gendarmerie, je l'espère, est à l'œuvre, mais voilà, je vais essayer peut-être aussi de motiver de nouveau les autorités judiciaires pour sensibiliser à la répétition de ce type d'actes. Donc on fait une célébration dont la signification profonde, spirituelle de ceux qui la vivent, c'est de compenser par plus d'amour pour le Christ le manque d'amour pour lui qu'a été la profanation. Donc il s'agit en fait de manifester notre amour pour le Christ.
Vous avez évoqué tout à l'heure, dans le cadre de l'année 2025 jubilaire, le fait que les églises seront ouvertes pour que les personnes puissent se recueillir, prier, etc. Mais avec ce type d'accident, ça n'incite pas à l'ouverture des églises.
Alors, en tout cas, ça incite à faire bien attention à la manière dont on sécurise ce qu'il y a de précieux, nos tabernacles et puis les sacristies, enfin, où sont rangés souvent certains, quand il en reste, parce qu'on s'en est fait quand même voler beaucoup. Mais on sait qu'en fait, une église qui est fermée à clé tout le temps, est aussi la cible de vol, hein, parce qu'en fait les voleurs savent que tout le monde pense que c'est fermé et qu'ils sont tranquilles, ils arrivent toujours à entrer d'une manière ou d'une autre, hein, donc le fait de fermer les églises n'est pas la solution. Il y a une certaine vigilance à avoir, et puis en fait si l'église est ouverte, justement il y a des chances que des gens s'aperçoivent si quelqu'un est en train de commettre des actes indélicats, plus que si tout le monde sait qu'elle est fermée, enfin. Donc c'est voilà, et puis il y a plus de vie dans un lieu ouvert que dans un lieu fermé. Donc, bien sûr, il y a certaines églises, on voit bien que c'est trop isolé, etc. Donc, c'est pas forcément prudent toujours de laisser ouvert. Mais voilà, plus on ouvre, mieux c'est quand même.
On voulait maintenant évoquer avec vous la journée diocésaine de formation catéchèse et liturgique qui aura lieu le 15 novembre prochain. Jean-Claude.
Effectivement, cette journée diocésaine de formation de catéchèse et de liturgie, à qui elle s'adresse au final ? Y a-t-il beaucoup de catéchistes dans le diocèse ? Quel est le profil de ces personnes qui donnent du temps pour passer l'enseignement et accompagner des jeunes et parfois même des adultes vers le baptême et les sacrements ?
Alors, je ne suis pas vraiment capable de vous donner le chiffre exact du nombre de catéchistes. Je ne sais pas, peut-être 100, peut-être plus. Voilà. Mais en tout cas, dans toutes les paroisses, il y a en général plusieurs catéchistes, parce qu'il y a ceux qui s'occupent des enfants. Il y a aussi des animateurs d'aumônerie, hein, qui sont pour plutôt les collégiens et lycéens. Et puis, il y a aussi la catéchèse des adultes, qui est proposée dans beaucoup d'endroits, et notamment là où il y a des catéchumènes, des adultes qui se préparent au baptême ou qui demandent d'autres sacrements comme la confirmation ou parfois la première communion s'ils ont été juste baptisés sans avoir fait leur première communion. Donc il y a, voilà, ça fait un certain nombre de personnes qui sont concernées par l'acte catéchétique. Et en réalité, toute la communauté chrétienne est concernée par l'acte catéchétique parce qu'en fait, nous devrions être des communautés catéchisantes. Catéchiser parce qu'on a toujours besoin de recevoir, de faire retentir en nous la parole de Dieu, et catéchisante parce que nous avons à la faire retentir aussi pour nos frères et sœurs. Donc on pourrait élargir beaucoup. Après, le sujet de la journée, c'est le lien entre la catéchèse et la liturgie qui peut être dans deux sens, c'est-à-dire comment la catéchèse peut conduire à la liturgie. Et peut-être aussi comment la liturgie est une catéchèse, c'est-à-dire quand nous célébrons la messe, quand nous célébrons même un baptême ou n'importe quel autre type de célébration, ça nous dit quelque chose du contenu de la foi, ça fait résonner la parole de Dieu. Dans toutes les célébrations, on lit l'évangile, on lit des textes bibliques, donc on entend, et il y a toujours une catéchèse aussi dans la liturgie. Voilà. Donc, et en même temps, on voit bien que pour bien vivre la liturgie, on a besoin d'y être préparé, Voilà, il faut aussi des temps spécifiques pour catéchiser. Voilà, alors je ne sais pas, je ne vais pas faire déjà toute la journée, mais il y aura un intervenant qui est le père Spirissen, qui fait partie de l'équipe nationale de la catéchèse à Paris, du service national de la catéchèse. Voilà,
et Monseigneur, pouvez-vous nous rappeler comment devient-on catéchiste ? Est-ce qu'il y a une formation ? Est-ce qu'il y a un diplômante ? Comment ça se passe ? Qui peut devenir catéchiste ?
Alors, il y a des formations proposées par les services de catéchèse ou services d'aumônerie, etc., Mais c'est vrai que c'est d'abord un appel, c'est-à-dire dans la paroisse en général, c'est le curé ou d'autres catéchistes qui ont été délégués pour ça, qui interpellent, qui appellent quelqu'un. Mais ça peut être aussi, et c'est très bien si des personnes se sentent intérieurement appelées à faire la catéchèse, qu'elles en parlent avec leur curé, qu'elles se rendent disponibles, et puis il y aura un discernement pour voir dans quel type d'action catéchétique elles peuvent s'engager, quoi.
Père, on voulait évoquer maintenant le nouvel institut, le Centre Hélène et Jean Bastère, qui a pris place dans notre diocèse, cet institut de formation.
Alors effectivement, à Berganti, ce petit village entre Cahors et Limogne, est installé le centre Hélène et Jean Bastère, où sont dispensées donc des formations pour différents publics sur l'écologie intégrale. Cet institut est-il en lien direct avec le diocèse ? Est-ce un organisme indépendant ? Quel est un petit peu le lien avec l'église du diocèse de Cahors ?
Alors institutionnellement, c'est assez indépendant. C'est une association. Qui a sa propre gouvernance, si on peut dire. Mais ce sont des baptisés, des chrétiens qui se sont mis ensemble pour, et c'est tout à fait légitime, pour proposer une formation. Alors pas seulement la formation. Il y a la formation. Il y a des proposition de ressourcement spirituel, et il y a aussi le projet de mettre en place un accueil social pour des personnes en difficulté, parce que justement l'écologie intégrale, qui est leur thématique centrale, ça consiste à prendre soin de tout notre environnement, donc toutes les dimensions de l'être humain et de la création. Voilà, donc il y a ces différentes dimensions, donc intellectuelles, plus spirituelles et plus aussi matérielles, sociales, quoi. Voilà.
Donc l'écologie verte avance dans l'église du Lot.
Oui, tout à fait, on peut dire ça. Et après, voilà, ces chrétiens qui ont monté ça, me tiennent toujours au courant de ce qu'ils font et sont vraiment en communion avec l'évêque du lieu.
Alors, je vais faire un peu de pub pour notre radio, puisque on retrouve très régulièrement les créateurs, je vais dire, du Centre Hélène et Jean Bastère, et ceux qui interviennent régulièrement sur notre antenne. Donc je pense que nos auditeurs retrouveront des informations très régulièrement sur ce lieu-là et tout ce qui est proposé. Alors on va arriver au terme de ce temps de rencontre, peut-être en cette période de Toussaint. Si vous aviez un message à nous donner.
Voilà, bien, le pape vient de publier une encyclique sur le cœur de Jésus, sur les aspects humains et divins du cœur de Jésus, de l'amour du cœur de Jésus. Que nous vivions notre foi avec tout notre cœur. Voilà, c'est ce que j'invite. La sainteté, c'est au fond cela. Jésus, par son cœur, nous fait comprendre, son cœur transpercé sur la croix, nous fait comprendre de quel amour il nous aime. Laissons un peu notre cœur s'ouvrir les uns aux autres, s'ouvrir au Seigneur.
Alors, Père, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour répondre, mais juste on voulait évoquer avec vous Notre-Dame de Paris et ce qu'on a découvert ce matin.
Effectivement, Monseigneur, êtes-vous favorable à la proposition de Madame la Ministre de la Culture qui estime que de faire payer l'entrée à Notre-Dame 5 euros permettrait de recueillir 75 millions d'euros par an, ce qui serait une aubaine pour l'entretien et la rénovation des églises?
Alors, je suis pour la rénovation des églises, mais je pense pas que ça soit la bonne solution. Et surtout, je pense que vraiment, nos églises doivent être ouvertes à tous et gratuitement.
Merci, Monseigneur. Merci d'avoir pris du temps pour nos auditrices et nos auditeurs. Merci à vous, Jean-Claude Bonnemère, pour être autour de cette table. Imanol été à la réalisation technique de notre émission. Nous nous retrouvons ensemble très prochainement. En attendant, restez fidèles au programme de présence, aimez les gens et portez-vous bien.